OK, il est 16h48. Noé, n'ajustez pas votre appareil. Notre ami Raphaël Jacob est là un peu plus tôt aujourd'hui. C'est à cause de la conférence de presse de 17h du premier ministre Legault qu'on va retransmettre en direct. Salut Raphaël.
Salut Patrick.
Donc, tu veux nous parler de ce qu'on appelle aux États-Unis President's Day, la journée des présidents.
Ouais, ben en fait, je voulais t'en parler hier à la base parce que c'était hier, mais on sentait qu'on avait d'autres chats à fouetter. Fallait se parler de l'acquittement de Donald Trump. La journée des présidents, si on peut l'appeler ainsi en français, c'est un congé férié aux États-Unis depuis des décennies maintenant. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que ça fait un petit bout de temps que je voulais te parler d'une étude qui a été publiée sur comment on juge qui a été un grand président ou non. Parce que, évidemment, il y a des classements historiques depuis très longtemps, savoir qui a été le meilleur, le moins bon, bon. Et il y a toujours eu des critères assez classiques. Par exemple, évidemment, les accomplissements d'un président lorsqu'il est en fonction ou simplement la quantité de temps que le président était en fonction. Parce qu'on sait que, typiquement, là, un président qui a servi un seul mandat va avoir plus de difficultés à se hausser au classement que quelqu'un qui en a fait deux ou plus. Bon. Ce qui est très intéressant dans cette étude-là, c'est que tu as eu un trio de chercheurs qui a sondé directement des spécialistes de la présidence. On leur a demandé de dévoiler, d'un côté, leur affiliation politique personnelle, pour quel parti eux tendaient à voter personnellement, avant d'assigner un score de 0 à 100 à chaque président selon eux. Et ce qu'on découvre, en fait, c'est que quand on arrive à des présidents peut-être plus, en guillemets, modernes, là, comme Barack Obama, par exemple, comme même Ronald Reagan, l'affiliation partisane du spécialiste va jouer. Autrement dit, si tu es un spécialiste de présidence qui tend à voter peut-être plus démocrate, ben, tu vas tendre à coter quelqu'un comme Obama, peut-être de façon plus positive. Et à l'inverse, pour Reagan, c'était un républicain. Ce qui est également très intéressant, c'est que peu importe l'idéologie, il y a des choses qui bougent pas. Fait que je te laisse deviner qui est numéro un sur tous les classements, puis ça, c'est vrai depuis presque toujours.
Ça doit être Abraham Lincoln.
C'est Abraham Lincoln, effectivement. Puis, tu as les immanquables qui le suivent dans à peu près tous les classements. George Washington, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, etc. C'est sans appel. Autre chose qui est sans appel, puis ça aussi, je vais te laisser deviner, je te donne un petit indice à la base, c'est extrêmement facile. Qui est dernier et de très, très loin?
Trump.
C'est Trump, OK? Juste pour te donner une petite idée, là, quand on prend le score moyen de Lincoln, qui est premier, il est à peu près à 95 sur 100. Mm-hmm. Score moyen pour Trump est à 12. Puis ça, je tiens à le préciser, c'était avant sa défaite, puis c'était avant son appel à l'insurrection, tu sais. Mais je te mets tout ça presque comme préambule, si on veut, parce que d'un côté, ça, c'est le classement des historiens. Aujourd'hui, ce qu'on a eu, ça a été deux sondages nationaux qui, là, sont entrés, qui sont venus nous donner la lecture qu'ont non pas les historiens ou les spécialistes ou même l'ensemble de l'électorat américain de leur président, mais la perception des électeurs républicains. OK? Et ça, donc, c'était après la présidence Trump, après l'insurrection, c'était après même le procès au Sénat. On demande aux électeurs républicains, selon vous, qui est le plus grand président américain de l'histoire? Le numéro un, j'ose à peine te laisser deviner parce que j'ai peur que tu aies la bonne réponse, c'est Donald Trump. Et non seulement il est numéro un, Pat, là, mais il a plus d'appui, OK? Ou je devrais dire, il a plus de lecteurs républicains qui le considèrent comme le plus grand de tous les temps que Lincoln, Washington et tous les autres présidents autres que Reagan combinés ensemble.
Mais Raphaël, je suis pas surpris parce que c'est comme ça que ça se passe dans une secte.
C'est ça. C'est ça.
Le leader de la secte a toujours raison, c'est toujours le plus beau, le plus fin, ses jokes sont toujours drôles, mais c'est une dynamique de secte dans le parti républicain présentement.
Oui, et hier, à la chronique, tu sais, on se demandait un petit peu ensemble à quel point est-ce que Donald Trump va continuer d'être important, d'être un joueur important dans le paysage politique américain. T'en as un sacré début de réponse au sein du parti républicain. Ça te montre que même après le procès, même après tout ce qui vient de se produire, la dynamique en guillemets, sectaire, là, dont tu parles, elle est encore là et elle est extrêmement prononcée. Ça, c'était un des deux sondages. L'autre dont je voulais te parler est beaucoup plus simple. On demande aux électeurs républicains si l'élection de 2024 était demain, là, était maintenant, pour qui est-ce que vous voteriez comme candidat du Parti républicain? Autrement dit, qui voulez-vous qui dirige le Parti républicain pour la prochaine élection? Là aussi, je vais te laisser deviner sans vraiment te laisser deviner. Donald Trump est numéro un. Mais c'est pas simplement qu'il est numéro un. C'est qu'il est numéro un avec une majorité absolue d'appui. Il est au-dessus de 50%, alors qu'on teste une quinzaine de candidats. Puis il y a des grosses pointures là, dans les autres candidats. Ce sont pas tous des bozos puis des imbéciles. Et Trump a plus d'appui que tous les autres républicains combinés ensemble. En fait, il est 40 points, plus de 40 points en avant du numéro 2, de la personne qui finit numéro 2 au classement. Et c'est Mike Pence, son ex-vice-président. Devine qui est numéro 3 après Trump et Pence.
Mon
un certain
Dieu.
Donald Trump Jr. Son fils, le fils aîné de Donald Trump. Fait que tu sais, le brand Trump, il est là pour rester. Puis, tu sais, ça me renvoie à une question que je vois souvent passer depuis les dernières semaines. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous continuez à parler de Trump? Êtes-vous obsédé par Trump? C'est pas une question d'obsession ou même de vouloir continuer à parler. C'est qu'on n'a pas le choix de continuer à parler. Il est encore un joueur majeur. Et s'il veut continuer à occuper de la place, il va pouvoir le faire. Tu sais, fait qu'il y a ça qui mérite d'être dit. Puis en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est une espèce de scénario catastrophe en devenir pour le Parti républicain. Parce que, et ça aussi, on s'en parlait hier, Trump est en perte de vitesse, est en perte d'influence auprès de l'électorat général. Ça, c'est immanquable, les données sont super claires. Bon, fait qu'il est rendu carrément radioactif, là. Il était controversé, disons, il était
peut-être,
loin de faire l'unanimité.
Peut-être, Raphaël, mais il est encore très populaire dans le parti, tu viens de le dire.
C'est ça.
Puis, tu sais, pour le battre dans plusieurs États, tu l'as souligné sur Twitter, oui, les démocrates ont gagné par plusieurs millions de voix, mais ce qui les a propulsés vers la victoire, c'est qu'ils ont gagné par des petites marges dans quelques États. Puis ces États-là, je peux t'annoncer tout de suite que les républicains puis les prochaines élections vont s'arranger pour que les personnes qui sont pas très blanches, les personnes qui sont pas très riches, puissent encore moins voter.
Bien, c'est là que ça devient problématique pour le Parti républicain. Parce que Trump conserve un énorme appui, un énorme niveau d'appui, notamment au sein de d'États clés. En même temps, ce qui est vrai, c'est que là, il est carrément rendu radioactif auprès de l'ensemble de l'électorat américain. Fait que d'un côté, c'est un parti qui, on s'entend, a drôlement besoin de faire un ménage, mais en même temps, écoute, la base du parti, le noyau dur, ne veut pas faire le ménage. Le noyau dur veut encore de l'ex-président. Et ça, c'est même s'il ne fait à peu près rien depuis un mois. Et je sais pas si t'as vu ces images-là qui ont justement fait le tour des médias sociaux, là, notamment sur Twitter, ça a été beaucoup partagé en fin de semaine. On sait que Donald Trump a été donc assez discret depuis un mois. Il a eu une de ses rares, disons, apparitions publiques, mais on peut même pas appeler ça une intervention, c'était pas un discours, un rassemblement. Il a juste eu un trajet en voiture, là, d'un point A à un point B en Floride, dans un SUV,
ouais,
juste ça.
Il y avait une foule en délire. Écoute, c'est avec très peu de délire que je dois te dire bye-bye, mais on va s'en parler demain.
À demain.
Merci, Raphaël. OK, Philippe Quentin, t'es libéré. Merci d'être passé dans nos studios aujourd'hui. On va se retrouver demain. Et Mme Beauchamp, vous restez là. Après la pause, c'est la conférence de presse en direct du premier ministre François Legault sur des mesures de relâchement dans certaines activités.